Marie Nostrum sur Radio Zinzinex.
Des mondes antiques aux migrants d'aujourd'hui.
L'actualité, la culture, les sciences sociales.
Dans l'ère méditerranéenne.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes donc sur Radio Zinzinex et vous écoutez l'émission Marie Nostrum, préparée et présentée par Raymond avec Fabrice à la technique. Aujourd'hui, c'est le 15e numéro de notre émission. Le thème que nous avons choisi porte sur les enfants abandonnés dans les Basses-Alpes, et je dis bien les Basses-Alpes, c'est-à-dire avant que ce département ne s'appelle les Alpes de Haute-Provence, à savoir au 19e siècle et dans la première moitié du 20e siècle. Et donc là, nous allons nous intéresser à ces enfants qui sont un peu le reflet d'une certaine misère sociale, ces enfants abandonnés, reflet également d'une société souvent peu tolérante à leur égard et également à l'égard de leur mère. Notre expert pour ce questionnement est Isabelle Grenu. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes donc chercheur associé dans le laboratoire TELEM, qui est donc le laboratoire Temps, Espace, Langage, Europe méridionale, Méditerranée, qui fait partie de la Maison méditerranéenne de sciences de l'homme à Aix-Marseille Université, avec qui nous sommes partenaires. Et donc, vous avez soutenu une thèse et vous êtes lauréat de plusieurs prix relatifs à vos travaux de recherche. On va donc rentrer dans ce sujet des enfants abandonnés des Basses-Alpes. J'ai retenu d'ailleurs dans vos textes et dans votre travail deux expressions qui m'ont interpellé. D'abord, une première expression, ce sont ces êtres intéressants et infortunés. Et puis une deuxième expression, les enfants de la faute et du malheur. Et je trouve qu'avec ces deux expressions, on a déjà dit beaucoup de choses, n'est-ce pas Isabelle?
Oui, c'est vrai.
Et donc, alors on va commencer par un peu mettre en place le tableau, un peu la situation de ce phénomène, la situation en France, bon, peut-être pas en Europe, mais enfin, la France est le reflet de l'Europe, je crois, dans ce domaine-là, ça se passe un peu partout de la même façon. Alors, que dire de ce phénomène de l'abandon des enfants?
C'est un phénomène social qu'on observe en France et dans toute l'Europe et même aux États-Unis. Dans tout pays qui s'industrialise peu à peu à partir de la moitié du XVIIIe siècle, on l'observe dès 1750 en France et il connaît un pic remarquable à la fin du premier tiers du XIXe siècle. En 1831, c'est l'année où on a le plus d'enfants abandonnés en France, avec plus de 30 000 enfants dans l'année et beaucoup d'enfants qu'on dit en stock, hein, qui sont des enfants assistés, recueillis dans les hospices du pays. Donc un phénomène vraiment qui interpelle les contemporains.
Et cette augmentation, parce que quand même, l'abandon des enfants, c'est un phénomène qui est peut-être qui est assez ancien.
Bien sûr.
Et cette augmentation, est-ce qu'on en trouve des explications? Est-ce que c'est un effet statistique? Est-ce que c'est autre chose?
Non, je pense que c'est plus qu'un effet statistique. On en trouve des explications économiques, certainement liées à la misère, à la pauvreté. Mais également au statut des femmes et à l'illégitimité. En fait, ces enfants abandonnés, les historiens démographes qui ont travaillé, les premiers qui ont travaillé sur ce sujet, ont considéré que presque un enfant sur deux parmi ces abandonnés est un enfant illégitime, un enfant naturel. Donc cette illégitimité, elle est plus souvent observée dans les villes, en lien avec l'industrialisation, avec la concentration en ville de populations qui pratiquent le concubinage. Également, elle est liée au fait, surtout au début du XIXe siècle, au fait qu'on ait, en 1804, par le Code civil, interdit la recherche en paternité qui avait cours auparavant. une femme enceinte sans être mariée pouvait désigner le père de son enfant, dire que c'était telle personne et recevoir des subsides, pouvoir être assurée que son enfant serait élevé par cet homme, par le concours de cet homme. Et c'est abrogé en 1804 par le Code civil qui rejette toute la responsabilité de l'illégitimité sur les femmes.
Oui, c'est étrange dans une période où, finalement, à la fin du XVIIIe siècle, on a, pense-t-on, un renouveau des libertés une première avancée de la démocratie, de voir finalement le recul qui touche les femmes.
Oui, c'est vrai que 1793, on reconnaît l'enfant naturel comme un enfant de la patrie, comme les autres. On prescrit de donner, d'aider les filles mères, comme on les appelle à cette époque, on appelle les mères célibataires à cette époque. Mais quelques années plus tard, on revient sur des dispositions généreuses et effectivement, il y a là ce qu'on peut percevoir comme une régression vis-à-vis des femmes.
Oui, c'est ça. C'est une régression qui est peut-être aussi à mettre en lien avec la législation concernant le transfert des patrimoines, par exemple.
Oui.
Mettre des enfants illégitimes en travers des héritages, c'est quelque chose qu'on évite, je pense.
Bien sûr.
Hein, il s'agit de transmettre un héritage intégral.
Oui, il y a une protection de la famille légitime, ça c'est
voilà,
certain.
C'est, ça, ouais.
C'est certain que l'enfant illégitime amène la discorde on est pour la paix des familles, comme on l'appelle à ce moment-là. Hein. Et donc, on revient sur ces dispositions et ce qui a certainement causé nombre d'abandons d'enfants.
Ouais. Oui, donc on pourrait presque dire d'ailleurs que l'abandon est facilité par cette législation.
Oui,
au bout du compte, c'est presque comme ça. Quoi.
D'une certaine façon, il est d'autant plus facilité la législation de 1804 et puis le décret de 1811, décret napoléonien, qui institue la pratique du tour dans tous les arrondissements. Chaque arrondissement en France doit avoir un dépôt d'enfants abandonnés pour limiter les expositions dans les lieux publics. Donc tout ça est réglementé et on facilite d'une certaine façon l'abandon.
Et paradoxalement, une autre citation de vos travaux, et parallèlement, donc l'État cherche à, j'ai trouvé l'expression là aussi intéressante, cherche à éponger l'écume des enfants non voulus.
Oui, c'est une expression de Jean-Pierre Bardet, qui est un des historiens démographes qui a travaillé parmi les premiers sur cette question, à Rouen principalement. Et c'est vrai qu'on n'a pas de moyens de contraception efficaces au XIXe siècle. Et donc, ces enfants non voulus, effectivement, il faut bien qu'on
il faut bien trouver une solution.
Qu'on s'en occupe d'une certaine façon. Donc, oui, l'abandon, et l'abandon secret surtout, qui est une spécificité française, et en Italie aussi, hein, on l'a observé, mais en France, il dure toujours d'ailleurs, hein, c'est ce qui préfigure de l'accouchement sous X, hein, qui est toujours en vigueur.
Et donc, finalement, entre la fin du XVIIIe et le début du XIXe, c'est le rôle de l'État qui change.
Oui, oui, oui.
Considérablement, puisqu'avant, sous l'Ancien Régime, qui est en charge des enfants abandonnés
Oui, c'est vrai que la Révolution, avant, ce sont les institutions, des institutions publiques déjà, hein, au XVIIIe siècle, mais beaucoup de... c'est assez désorganisé. C'est les communes qui sont souvent en charge de ces enfants. Là, au niveau de la Révolution, on institutionnalise vraiment leur prise en charge par l'État.
Voilà.
C'est la grande avancée de la Révolution et des années qui suivent.
On va faire une petite pause musicale en écoutant une chanson chantée par Marie-Paul Bell, mais qui est en fait une chanson plus ancienne qui a été créée, écrite et chantée par Fréhel, chanteuse populaire de la premier tiers du XXe siècle.
« Famatou, dans une mansarde n'importe où, à Montparnasse. Que je suis née un jour sous les toits, et que j'ai pour la première fois ouvert les chasses. Mes pères et mères des chars comme tout, qui de plus n'aimaient pas beaucoup sucer de la glace. À l'heure des repas dans notre garneau, me laissait toujours sans un pélo, le bec ouvert ou comme un moineau. Premier qui a voulu ma vertu pour me posséder n'a pas eu à faire un siège. Il n'a eu qu'à ouvrir les bras et mon amour est tombé là comme dans un piège. Si j'avais l'esprit perverti, mon cœur au contraire était lui pur comme la neige. Nous éveillant sous les bécots, nous allions à tous les échos chanter l'amour comme de moineaux.
Alors cette situation générale brossée, on va passer donc au cœur de votre sujet, de votre étude, c'est-à-dire les Basses-Alpes. Et donc, quelle est dans ce cadre-là, quelle est la situation dans les Basses-Alpes? Quelle est la particularité de ce département par rapport au reste de la France et comment se déroule ce phénomène?
Donc les Basses-Alpes sont un département très rural où, tout d'abord, il y a peu d'illégitimité par rapport aux grands centres urbains, par rapport aux Bouches-du-Rhône, par exemple, si on veut comparer avec un département proche. Hein, les Basses-Alpes, c'est 2,6% d'illégitimité en 1885 et c'est plus de 10% dans les Bouches-du-Rhône. Donc on a peu d'abandon. Très peu d'abandon. On a autant d'abandon en 70 ans que dans une année dans les Bouches-du-Rhône, quasiment.
Ah oui.
C'est-à-dire, en gros, 1200 enfants admis à l'assistance entre 1874 et 1940, ce qui est finalement un effectif assez faible. Ce qui peut poser problème parfois pour l'historien qui veut établir des séries et des statistiques. Donc c'est une particularité importante, mais il faut aussi considérer qu'il y a une part des mères qui abandonnent leur enfant à l'hospice de Marseille pendant une bonne partie du XIXe siècle. C'est un phénomène qu'on a pu observer auparavant déjà. En 1836, on ferme beaucoup de dépôts dans les Basses-Alpes et l'on en conserve un seul à Digne. Et les mères, finalement, optent pour un accouchement à l'extérieur du département, ce qui facilite l'abandon de l'enfant à Marseille. Puis l'enfant est rapatrié parce qu'à Marseille, on demande le nom de la mère, son origine, donc on sait d'où elle vient et tout se règle après entre les administrations Bouches-du-Rhône et Basses-Alpes. Mais les enfants reviennent dans leur département d'origine bien souvent.
Oui, donc à Marseille, c'est l'anonymat de l'anonymat. Et puis finalement...
Finalement, non.
Finalement, non, voilà, c'est ça, puisqu'on les renvoie.
Voilà, mais ça permet aux mères de pouvoir quitter leur village avant que leur grossesse ne soit trop visible et de pouvoir cacher leur état à leur village, peut-être à leur famille aussi, bien souvent. Donc, ça respecte cela, ça permet de respecter cela pour elles. Voilà.
Oui, et donc ce département rural, est-ce que ça voudrait dire qu'en milieu rural, l'abandon est moins courant à cause de conditions économiques, de conditions de vie particulières?
L'illégitimité, déjà, est très faible. Et on sait que les enfants abandonnés sont avant tout des enfants illégitimes. Il y a bien sûr des couples mariés qui peuvent abandonner leur enfant, mais c'est plus rare. Donc, effectivement, l'abandon en milieu rural, c'est différent. On n'a pas l'afflux, comme en ville, de femmes qui viennent de la campagne pour accoucher. Au contraire. Donc, effectivement, ça a cette particularité. La norme, c'est le mariage. Donc, plus fortement que dans les grands centres urbains.
Oui, bien sûr. Et est-ce que, paradoxalement, comme... c'est un département qui est quand même très pauvre. Est-ce que paradoxalement, ce n'est pas non plus un département qui importe, si je puis dire, entre guillemets, des enfants abandonnés ?
Alors, au début du 19e siècle, sans doute, les gens viennent abandonnés d'Italie, par exemple. On a des exemples d'enfants de mères italiennes, en tout cas, on en parle. De mères italiennes qui viennent accoucher là parce que c'est moins réprimé que dans leur propre pays, ou des Hautes-Alpes, ou du Var. On a des exemples d'enfants qui sont déposés là en provenance de départements voisins. Durant la Troisième République, je ne pense pas que cela joue encore beaucoup. Mmh. On n'a plus de dépôts libres, donc c'est beaucoup plus... on est obligé, en fait, durant la Troisième République, surtout à la fin, à la fin du XIXe siècle, on institue le bureau ouvert, bureau d'abandon ouvert, où on vient abandonner son enfant. Il y a une expression qu'on a utilisée d'un tour vivant et parlant, c'est-à-dire qu'on vient... auprès d'une préposée qui tient ce bureau jour et nuit, et on vient apporter son enfant et le déclarer abandonné. Et la plupart du temps, les mères, en fait, donnent leur nom et reconnaissent leur enfant. C'est dans les Basses-Alpes, les enfants, il y a un taux de reconnaissance des enfants assez élevé. C'est une condition pour reprendre son enfant. Ensuite, quand on aura traversé le mauvais moment, hein, ça peut être aussi, c'est aussi une condition pour obtenir des secours pour son enfant. Il faut que l'enfant soit reconnu. Donc, il arrive que les mères aient reconnu leur enfant, gardé leur enfant pendant un certain temps, et à l'expiration des secours, abandonnent leur enfant.
Alors, dites-nous un peu plus précisément là, comment se déroulent les abandons. Vous avez parlé à plusieurs reprises de tours. Et il faut l'expliquer parce que avides de savoir de quoi il s'agit.
Le tour, c'est un dispositif pivotant hein, qui était encastré dans le mur de l'institution qui était censée recueillir les enfants abandonnés. Dans les Basses-Alpes, il n'y a pas à proprement parler de tour. On n'en a pas une trace tangible. Il y a des ouvertures dans les murs, on décrit des caisses. Donc, on suppose que voilà, c'était aménagé selon les moyens du bord, mais il n'y avait pas vraiment de dispositif, peut-être sauf à Digne, je pense, où il devait exister un tour. J'en ai trouvé un devis, mais pas trace du tour, en tout cas. Donc, en fait, on parle d'hospice dépositaire, c'est-à-dire d'hospice qui est habilité à recevoir les enfants abandonnés. Donc, on en comptait un certain nombre. Ils ont été supprimés petit à petit. Le dernier tour supprimé en France, c'est celui de Marseille, en 1868.
Ah oui,
voilà. À Digne, c'est 1859. Mais ils étaient surveillés depuis longtemps, hein, surveillés jour et nuit, hein, pour essayer d'entrer en contact et d'attraper les gens qui venaient pour abandonner un enfant, essayer de...
De les convaincre,
de les en dissuader, oui.
Pas au-delà, quand même, c'est pas pour...
Non, c'était pas prohibé, hein, l'abandon, non.
Oui, on essayait de les convaincre en rentrant en contact avec eux et de leur proposer d'autres solutions.
Oui, c'est ce qui se passera avec le bureau ouvert, en fait.
Hein. C'est ça. Hein.
C'est-à-dire d'expliquer aux maires que l'abandon est irréversible. C'est-à-dire que quand on abandonne son enfant, on ne pourra le reprendre que sous certaines conditions et que c'est un acte qui doit être réfléchi et qu'on peut peut-être trouver d'autres solutions.
Alors, qui est-ce qui abandonne ?
Donc, les mères abandonneuses, comme on les appelle parfois, sont la plupart du temps des femmes assez jeunes, dans les Basses Alpes en tout cas, ce sont des femmes assez jeunes et qui, autour de la trentaine, hein, c'est pas si jeune que ça, et qui sont des, pour une partie, vivent encore au domicile de leurs parents. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas de profession, elles ne déclarent aucune profession. Pour les autres, elles sont, ce sont des domestiques. Et elles, elles sont jeunes, elles sont souvent démunies, et ce sont, elles ne sont pas mariées, hein, évidemment, pour la plupart. Et elles cherchent, elles reconnaissent leur enfant parce que, pour certaines, elles déclarent qu'elles le reprendront assez rapidement. Et pour une part, à peu près une sur cinq environ, elles demandent des nouvelles durant toute la tutelle ou une partie de la tutelle de leur enfant. Donc, elles cherchent à garder un lien avec lui.
Plus qu'ailleurs ?
Non,
non,
pas plus
pas
qu'ailleurs.
Plus qu'ailleurs.
Non,
donc,
pas
c'est,
plus qu'ailleurs.
C'est un peu une règle de la, du phénomène.
Oui,
quoi.
Oui, oui.
D'accord.
Donc, voilà, elles apportent... quand elles amènent leur enfant, l'enfant va être intégré à une catégorie administrative selon son statut, s'il est reconnu ou pas reconnu. Parfois, on a aussi des enfants orphelins hein, qui sont abandonnés, entre guillemets, par leur famille, quand ils n'ont pas de famille qui peut s'en charger. La famille est trop pauvre, voilà.
Et donc, au bout du compte, il apparaît que c'est une histoire qui est essentiellement féminine.
Oui, on voit.
C'est ce qui m'a frappé en lisant un peu vos travaux. J'ai rencontré beaucoup de femmes et peu d'hommes, mis à part les inspecteurs dont on va parler tout à l'heure.
Effectivement, les pères sont les grands absents de cette histoire. Hein. Alors, parfois, on a les pères, les grands-pères. Qui sont spécialement en charge des orphelins, par exemple. Parfois, ils gardent les orphelins pendant... ou on place les orphelins chez leurs grands-parents. Au lieu de chercher de nourrice, on fait ce choix. Mais les pères, on les voit quand il y a une demande de remise des enfants. On peut demander la remise de son enfant qu'on a placé à l'assistance publique sous certaines conditions. Alors, des conditions, par exemple, on peut demander de payer en partie les frais occasionnés par l'enfant, l'entretien de l'enfant durant la tutelle. Mais on exige aussi des garanties sociales, économiques, morales.
Morale, oui, c'est ça.
Donc, par exemple, une mère qui se marie peut demander la remise de son enfant à cette occasion. Et là, on voit, par exemple, un père écrire en disant « Voilà, ma femme a déjà demandé, voilà déjà un an, on n'a toujours pas obtenu notre petite fille, c'est mon enfant, je veux la légitimer par le mariage. » Donc, on voit que, en fait, certaines situations qu'on pensait des mères isolées l'étaient, en fait, pas forcément. Et pour certaines, il y avait effectivement une relation et après un concubinage qui s'est mis en place. Mais ces cas de concubinage avérés, je les ai trouvés pour des couples qui avaient décidé de vivre à Marseille, par exemple.
En ville. En ville, oui, plus que dans les campagnes.
Voilà, voilà.
Ça, c'est sûr. On va faire une petite pause musicale. Merci. Avec un tube, si je puis dire, Stromae qui chante Papa Théou.
Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné. Pas vrai ? Où est ton papa ? Dis-moi où est ton papa ? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa ! Dis-moi où es-tu caché ? Ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts. Hey. Où t'es, papa, où t'es, papa.
papa, où t'es, où t'es, où t'es, où papa, où t'es, où t'es, 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 où t'es, où papa, où t'es. Quoi? Qu'on y croit ou pas, y'aura bien un jour où on n'y croira plus. Un jour ou l'autre, on sera tous papa, et d'un jour à l'autre, on aura disparu. Serons-nous détestables? Serons-nous admirables? Des géniteurs ou des génies? Dites-nous qui donne naissance aux irresponsables,
hein? Je vous rappelle que vous êtes sur Radio Zinzinex, que vous écoutez l'émission Marie Nostrum. Nous sommes en compagnie d'Isabelle Grenu, qui nous parle des enfants abandonnés des Basses-Alpes. Et donc, ces enfants abandonnés, en nombre, même si c'est un peu moins important qu'ailleurs, proportionnellement, il faut quand même y faire face. Alors, comment faire face à ce phénomène? Alors, pour résumer, nourrir, habiller, soigner, placer, donner un avenir, on pourrait presque dire. Alors, comment l'État, qui désormais, depuis le début du 19e siècle, prend en charge ce phénomène, comment les choses se passent?
Alors, tout enfant abandonné doit être placé rapidement. Et on a organisé au niveau de chaque département un service qui s'appelait des enfants assistés et qui est devenu un service de l'assistance publique qui est dirigé dans les Basses-Alpes par un inspecteur. C'est un petit département, enfin un grand département par la superficie, mais à la population restreinte. Donc, chaque service a un effectif en fonction des enfants qu'on a à prendre en charge. Donc, cet inspecteur, on lui adjoint un sous-inspecteur à partir de la fin du 19e siècle, en 1893, je crois. Voilà, c'est lui qui organise l'accueil de l'enfant. C'est-à-dire qu'il a à sa disposition un réseau. Il travaille en réseau. Avec les maires des communes rurales, qui sont les plus fins connaisseurs de la population, et des opportunités de famille susceptibles d'accueillir des enfants. Ils connaissent les nourrices qui peut-être ont déposé une demande auprès du maire, qui relaient cette demande à l'inspecteur.
Oui, c'est les informateurs.
Ce sont des informateurs. Et ils sont sollicités pour établir des certificats d'aptitude des femmes à accueillir un enfant. C'est-à-dire une aptitude, le logement, on définit combien elles ont d'enfants, quel âge a le dernier, parce qu'on ne peut pas prendre un enfant en nourrice si son propre nourrisson a moins de 7 mois pour protéger la vie et la santé de leur propre enfant. Donc les mères sont sollicitées pour cela. Les médecins également, depuis la loi Roussel en 1874, il y a des médecins inspecteurs qui visitent tous les enfants placés en nourrice, donc ils connaissent aussi très bien le tissu social du département, et ils connaissent les personnes qui soignent bien les enfants, qui sont susceptibles de bien les soigner. Donc ces renseignements sont importants. Et puis les nourrices elles-mêmes peuvent... solliciter directement l'inspection en disant voilà, je viens par exemple de perdre mon enfant et j'ai du lait, j'aimerais prendre un enfant en nourrice. Donc il s'agit pour eux d'avoir une bonne connaissance des possibilités du département pour répondre très rapidement, parce que l'enfant abandonné, c'est la plupart du temps un nourrisson, hein, ce sont les plus nombreux. Ce sont des bébés qu'il faut nourrir rapidement.
Et oui, ils sont très fragiles.
Voilà, ils sont très fragiles. Et jusqu'à la fin du 19e siècle, voire le début du 20e siècle, il s'agit de trouver des nourrices au sein, très rapidement, pour les nourrir au sein. Il y avait une énorme mortalité chez les enfants assistés.
Qui est de l'ordre de combien ?
Tout au long du 19e siècle, on a des chiffres entre 50 et 80% dans les hospices jusqu'aux années 1860-70. On a une grosse mortalité et qui perdure assez dans les Basses-Alpes. On s'aperçoit que la mortalité infantile régresse moins rapidement qu'ailleurs. peut-être dû à la configuration du département qui fait que les fermes éloignées pour avoir les services d'un médecin, c'était pas facile. Les difficultés liées à la subsistance, ce sont des pays pauvres, hein. Donc voilà, ces enfants, le nourrisson, donc il est placé de préférence chez une nourrice qui va l'allaiter au sein. Et dans le sud-est de la France, c'est la façon de nourrir les bébés qui prédomine pendant très longtemps. C'est à partir des années 1920 que le biberon est peu à peu intégré et qu'il gagne la confiance aussi des inspecteurs de l'assistance publique qui commencent à placer des enfants aussi chez des femmes qui n'allaitent plus, qui ont déjà élevé leur enfant, des femmes plus âgées, des veuves, parfois même des mères célibataires aussi, ça arrive. Donc, en première intention, on le place dans l'urgence pour qu'il soit nourri, quitte à le déplacer au moment de son sevrage, quand on aura trouvé un placement plus adéquat aux attentes de l'assistance publique. En fait, on voit que petit à petit, les exigences augmentent et que la famille rurale avec tous ses enfants dans laquelle on plaçait le petit assisté et qui grandissait au milieu des autres enfants et qui partageait vraiment leur quotidien, à cela, on préfère trouver une famille sans enfants qui va assez aisée et qui pourra offrir un avenir à l'enfant abandonné. Ça, c'est très net. Et peu à peu, avec la loi sur l'adoption en 1923, l'assistance publique devient la pourvoyeuse d'enfants, de jeunes enfants pour des couples sans enfants.
Et alors, quand on ne trouve pas de nourrice, on fait comment? Parce que ça devait arriver quand même.
Rarement quand même. Non. Parfois, le délai est assez long. On peut avoir plusieurs semaines avant de trouver une nourrice, ce qui met la vie de l'enfant
en danger.
C'est arrivé que les délais s'allongent quelque peu, mais on trouve toujours. On ne garde pas les enfants dans l'institution à l'hospice, par exemple.
Ils ne font que passer.
Les enfants sont soit enfants handicapés, quand ils sont malades, ils reviennent à l'hospice pour être soignés et ils retournent après dans leur placement, ou entre deux placements, quand ils sont, par exemple, ils peuvent être rendus par des nourriciers. Une nourrice qui devient enceinte ne nourrit plus le petit assisté, le petit abandonné, donc elle le ramène à l'hospice. Donc c'est un lieu de transit, mais on évite de garder les enfants, on ne les garde pas à l'hospice.
Oui, et donc ce problème des nourrices, finalement les nourrices, elles deviennent des employés des hospices, quoi, de l'assistance publique.
D'une certaine façon, elles touchent une certaine somme par mois, hein, mais il n'y a pas d'engagement de durée, il n'y a pas de contrat à proprement parler. Hein, c'est vraiment, c'est très flexible, hein. Ouais. C'est un emploi complètement flexible.
Et ce qu'elles touchent, c'est un peu intéressant ou pas?
Oui, ça l'est quand même. C'est un apport intéressant dans le contexte de la micro-exploitation agricole que connaît le département à l'époque. Voilà. Donc on est dans des petites exploitations de peu d'hectares et ça fait un apport.
Oui, de liquidité en plus.
Voilà, et en plus de liquidité, et qui n'est pas soumis aux contraintes de l'environnement, de la saisonnière, etc. C'est toute l'année, on a un peu d'argent qui rentre. Donc c'est quand même intéressant, je pense, puisque les femmes le pratiquent. Maintenant, les femmes, avec l'élévation du niveau de vie, surtout après la Première Guerre mondiale, où le revenu agricole augmente nettement, les femmes le font moins volontiers. Et on a tendance à placer les enfants, par exemple, au sein, de plus en plus dans les zones rurales les plus reculées, les plus pauvres. Mmh. Et les femmes des zones vers Fort-Calquier, la vallée de la Durance, des zones qui sont des zones agricoles plus riches, elles ne prennent pas forcément volontiers un enfant de l'hospice. Ou alors elles vont lui préférer un enfant de famille, des familles de Basse-Provence, de Marseille ou d'Aix, qui vont placer leur enfant, mais à des tarifs beaucoup plus avantageux. Donc, il y a une concurrence entre les petits-enfants de l'assistance publique et les enfants de familles bourgeoises, par exemple, au niveau des tarifs des nourrices. Et ça, c'est vrai pendant tout le 19e siècle et encore au début du 20e siècle.
Ah oui, c'est pas la même tarification.
Non.
Ah oui, c'est étrange, ça. Et donc, et ces enfants, est-ce qu'ils sont tous bien soignés, bien nourris, nourris à leur faim, etc. Est-ce qu'il y a des cas nombreux ou moins importants que dans le reste de la France de problèmes médicaux de cette nature ?
Ce que l'on observe, c'est que la loi Roussel nous apporte des informations sur la façon dont ils sont nourris. Mais on a peu d'informations, il n'y a pas de carnet de santé. On a peu d'informations sur leur suivi vraiment, sur leur poids, sur leur taille, sur leur développement physique. Ce qu'on a pu observer, c'est que, par exemple, à la Première Guerre mondiale, lorsque certains enfants d'assistance publique, des jeunes gens partent à la guerre, là, on a leur taille, par exemple. Et on observe qu'ils sont plus petits que les autres enfants.
Ah, c'est un signe.
Donc, on a un signe là, ils sont légèrement inférieurs, mais au niveau des basalpes, j'ai vraiment peu de matière pour établir des statistiques. Ça a été dit pour d'autres départements, comme le département de la Seine, étudié par Yvan Jablanca, où il signale que effectivement les conscrits sont d'une taille inférieure à la moyenne nationale. Oui, donc, mais pour les enfants, c'est difficile à dire. La mortalité, c'est pareil. Je pense qu'elle est assez proche de la mortalité à la fin du 19e siècle, par exemple, de ce qui existe dans l'ensemble du département.
Oui, pas plus. Ça voudrait dire que finalement, ils sont bien traités, globalement.
Au moins, quand ils sont petits, en fait... C'est Catherine Rollet, qui est une historienne qui a beaucoup étudié la petite enfance et la façon de nourrir les enfants. Elle dit que les nourrices pratiquent souvent comme avec leurs enfants, c'est-à-dire qu'elles donnent le sein de la même façon, ou le biberon si, dans la pratique, c'est le biberon qu'elles ont choisi pour leurs propres enfants. On lave les enfants de la même manière, c'est-à-dire dans les basales, par exemple, on ne donne pas de bain. Le bain, les inspecteurs ou les médecins appellent ça... enfin, pour eux, c'est une thérapie. Donc, la balnéothérapie, c'est quand la nourrice va laver le nourrisson dans une bassine. Pour eux, c'est rare, c'est très rare. Et ils le notent quand ils le voient. Donc, bien sûr, on ne se lavait pas de la même façon. Mais les enfants étaient soignés, je pense... certainement au plus près des enfants de familles rurales pauvres.
Oui, c'est ça. C'est en fait la règle commune, quoi, tout simplement. C'est ça.
Voilà.
C'est ça. Mais dans cet état, dans ce problème médical, sanitaire, de santé, etc., on peut glisser, même si ce n'est pas tout à fait la même problématique, on peut glisser que quand même, il existe aussi un peu d'infanticide dans ce dépôt d'enfants, quand on ne peut pas, quand on est trop pressé, certainement des infanticides. Je lisais là dans une nouvelle de Maupassant, Rosalie Prudent, ce sort difficile de cette servante obligée de tuer ses enfants parce qu'elle n'a pas les moyens. Est-ce que ça se trouve, ça, dans les Alpes d'Haute-Provence, les Basses-Alpes ?
Dans les Basses-Alpes, j'ai trouvé très peu de cas d'infanticide. On en a très, très peu. Je serais vraiment mal informée pour parler de ce problème. problème au niveau des Basses-Alpes. Mm-hmm. Comme il y a peu d'abandon, il y a peu d'infanticides. En tout cas, jugé, puisque c'est... Voilà. Ah, ouais. Donc, je ne saurais pas vous dire à ce niveau-là, mais c'est vrai qu'on a fait parfois le parallèle entre l'infanticide et l'abandon, comme si abandonner son enfant, c'était presque le condamner à mort, puisqu'il y avait une telle mortalité chez les enfants. Et je pense que les parents qui abandonnaient leur enfant, ou les mères, ne pensaient pas, elles, vouer leur enfant à une mort certaine. Il y avait, on le voyait quand les mères laissaient des objets, des rubans, etc., des billets qui recommandaient leur enfant à l'institution. Il y avait une bonne part d'espoir que leur enfant serait secouru et aurait peut-être une vie meilleure que celle qu'elle pouvait leur offrir.
Ah oui. On va faire une petite pause musicale en écoutant un groupe espagnol qui a eu beaucoup de succès dans les années 80-90, qui est ce groupe qui s'appelle Mecano, avec une très belle chanson qui s'appelle Hijo de la Luna.
Cuenta una leyenda que una hembra gitana conjuró a la luna hasta el amanecer. Llorando pedía al llegar el día de esposar un calé. Tendrás a tu hombre piel morena, desde el cielo habló la luna llena, pero a cambio quiero el hijo primero que le engendres a él, que quien sufre inmola para no estar sola, poco le iba a querer. Luna quiere ser madre y no encuentras querer que te haga mujer. Dime, luna de plata, ¿qué pretendes hacer con un niño de piel? De la luna, de padre canela nació un niño blanco como el lomo de un armiño, con los ojos grises en vez de aceituna, niño albino de luna.
Alors donc il semblerait qu'à la fin du 19e, au début du 20e siècle, on assiste à un tournant dans les Basses-Alpes à propos de ce phénomène des enfants abandonnés. C'est lié, bien sûr, au changement politique, certainement.
Oui, sans doute. La Troisième République s'installe dans le champ social avec une volonté législative forte. On a parlé de la loi Roussel. On peut parler aussi d'une nouvelle catégorie d'enfants accueillis, qui sont les enfants moralement abandonnés. Donc une mise en question de la puissance paternelle. Si on considère qu'un enfant est maltraité ou délaissé ou moralement abandonné, on peut destituer les parents de leur autorité devant un tribunal. Les parents eux-mêmes demandent que leur enfant soit accueilli à l'assistance publique par cette loi. En fait, nombre de parents demandent que leur enfant, quand ils sont dans l'incapacité de faire face à leurs difficultés, ou quand un des deux parents disparaît, il arrive que les enfants soient placés à l'assistance publique par cette loi. Donc ça, c'est une évolution certaine. En fait, on a aussi des enfants qui sont accueillis momentanément, qui sont en garde. Donc l'assistance publique multiplie à partir de la fin du 19e siècle les différentes catégories d'enfants qu'elle accueille. Elle en accueille de plus en plus. Alors les orphelins régressent, mais d'autres catégories prennent le pas. Ce qui a fait dire parfois que l'assistance publique devenait une garderie à ce moment-là.
C'est C'est un peu fort quand même.
C'est un peu fort, mais c'est une image forte, mais finalement qui est effectivement qui correspond à une réalité. Donc entre la loi Roussel, par exemple, et la Seconde Guerre mondiale, donc la Troisième République, c'est une longue période politique. La lutte contre la mortalité, effectivement, gagne du terrain et on arrive à des résultats concrets de ce point de vue-là. La scolarisation aussi des enfants, hein, qui a été un grand enjeu pour l'assistance publique. Les enfants étant placés sous la tutelle de l'assistance publique doivent aller à l'école et être alphabétisés et scolarisés jusqu'à l'âge légal, 12 ans puis 13 ans à partir des lois de Jules Ferry. Donc c'est un enjeu important, il y a un suivi, ça devient vraiment, même pour les placements, la distance entre le placement, l'endroit où les enfants sont en nourrice et l'école est devenue un critère de sélection, par exemple, des placements, et un critère de déplacement d'un enfant, même s'il est bien dans sa famille, mais qu'il a une heure ou deux heures de chemin à pied à faire chaque matin, il peut être déplacé. Donc c'est important. Les exigences de l'assistance publique montent au niveau du confort, du bien-être des enfants également, donc le confort des familles aisées, on en a parlé tout à l'heure. Hein. La formation des inspecteurs qu'on voit évoluer tout au long de la Troisième République, qui deviennent... Auparavant, ils étaient recrutés sur leur service précédent, dans l'administration, à l'école. On a pas mal d'instituteurs hein, qui deviennent inspecteurs. À partir de 1909, c'est un concours qui va déterminer s'ils sont aptes ou pas à exercer des fonctions. Donc, on voit une professionnalisation, une montée en puissance de l'inspecteur à qui on donne des responsabilités de plus en plus importantes au niveau du département. Ensuite, autre évolution, ces enfants peuvent être adoptés à partir de 1903, ça on en a parlé. Hein. Donc il y a une nouvelle loi en 1904 qui va réorganiser complètement le service des enfants assistés et qui veut placer en tout cas l'intérêt de l'enfant au centre de l'action sociale gouvernementale. Donc c'est vrai qu'on parle plus du point de vue de l'enfant que, par exemple, l'utilitarisme qu'on pouvait trouver précédemment dans le décret de 1811, par exemple. On dit, ben voilà, un enfant, il doit être placé dans une ferme pour travailler à tel âge. Là, il y a quand même une différence, même si les enfants travaillent, surtout après 13 ans, où ils sont tenus de gagner leur entretien. Donc ça demeure, effectivement, leur situation demeure. Mais le suivi, on sent une évolution dans le suivi. Il y a aussi une évolution au niveau des mentalités des familles et des pupilles eux-mêmes. Les familles sont plus revendicatrices. Elles hésitent moins à interpeller l'assistance publique pour demander des comptes, pour demander des nouvelles, mais aussi pour réclamer leur enfant ou pour être en contact avec eux, pour avoir le droit de correspondre, par exemple. Et les pupilles eux-mêmes hésitent moins. En tout cas, on voit l'apport de l'école dans leurs écrits. Ils maîtrisent un peu mieux l'écrit. Et ils n'hésitent pas à interpeller leur tuteur, qui est l'inspecteur d'assistance publique, quand leur placement, surtout après 13 ans, quand ils sont gagés chez des employeurs, ne leur convient pas. Donc les plaintes par les pupilles qu'on retrouve dans leur dossier individuel, hein, que l'assistance publique a gardé, sont assez nombreuses. Et on perçoit qu'il y a une volonté de justice chez ces enfants et qu'ils n'hésitent pas à interpeller les adultes qui sont leurs référents.
Donc l'État, on va dire que prend plus au sérieux le problème, on va dire, développe
oui.
sa prise de conscience concernant ces enfants abandonnés, protéger les plus vulnérables, c'est bien sûr le rôle de la République, et en même temps promouvoir, accompagner vers l'école, à travers l'école, le monde du travail. Donc il y a un souci de l'avenir.
Alors il y a un souci, effectivement, de l'avenir. Protéger... certainement, contrôler aussi. Il ne faut pas oublier que la protection implique aussi un contrôle social sur les enfants. Protéger, ça veut dire les répertorier, les identifier, identifier leurs parents, identifier la famille. Il y a aussi tout cet aspect. Il y a un aspect philanthropique, mais il y a aussi un aspect de contrôle social et de désir de paix sociale. Les enfants, par exemple, les enfants qui ils sont scolarisés, on souhaite qu'ils acquièrent un certain niveau scolaire, mais en même temps, une fois qu'ils ont acquis ce niveau, par exemple, pour un certain nombre d'entre eux, le certificat d'études primaires, qu'ils obtiennent parfois, après cela, l'assistance publique n'a pas d'ambition pour eux. C'est-à-dire qu'on les renvoie dans leur ferme et on les renvoie à leur statut de domestique. Le but de l'assistance publique pour les enfants, c'est la domesticité. On ne leur voit pas d'autre avenir. On a besoin de revitaliser la terre, de revitaliser les campagnes qui sont désertées par la jeunesse locale, qui a d'autres aspirations que de rester dans les zones rurales, qui a envie d'aller ne serait-ce que dans les villes du sud du département, de la vallée de la Durance, ou plus loin, dans la Basse-Provence, les ports de la côte sont très attractifs, les industries. Et donc, les pupilles de l'assistance publique, on leur barre une route vers l'apprentissage, vers une promotion sociale, une véritable promotion sociale. Donc ça, c'est quand même une permanence qu'on retrouve presque jusqu'aux années 1970, où on retrouve encore des enfants placés dans les fermes, dans le milieu rural, alors que le milieu rural, depuis longtemps, est déserté par la jeunesse commune des familles rurales.
Oui, donc il y a une protection qui est finalement qui est limitée à l'obtention peut-être du certificat d'études, en tout cas de l'arrivée à l'âge pas tout à fait adulte, mais enfin la libération après les obligations scolaires. Quoi. En gros, c'est comme ça. Et encore un petit intermède musical. Avec la Smala, qui est donc un groupe de hip-hop belge francophone, et qui a fait une chanson qui s'appelle Les Enfants Perdus.
Je pourrais en parler pendant des lunes. Contre ces semblants de futur, je lâche des murmures dans le vent pour les enfants des rues. Trêve de hurlements, frangin chute, je chante. Mets-moi une tasse d'hydromel, un air de flûte de pan. Pain, pita, frita, pas. Pas de salade, petit rapace. Si ça marche, on te le dira pas. Nique les pirates des marées basses. Dédicace les tziganes sales, les petites cailles des favelas. Appelle-les que tous tes copains débarquent. Ici ça rime à l'arc, qui va là, là. Le grand Colin des bois. Y'aura pas de jambonade ou de carbonara sans fromage. Fantastique quand ça kick à la cantona. C'est fini la tristesse. On vieillit plus, on fait la fête. C'est IT à délivrer Lily la tigresse. Qui veut encore du miel, dessert. Sur un nuage survol Bruxelles. Avec mes gosses du père, t'essayes.
Tu m'as fait un gros popo.
C'est vrai.
Le coffre à popo.
Non, pas ça. Pas le coffre à popo. Non.
On a grandi, mais on s'est pas perdu. Laisse place et chute. Tu vois nos têtes sur des affiches, mais c'est pas child focus. Vision d'adulte avec des rêves d'enfant. Visons la lune, regarde au ciel ensemble. On a grandi, mais on s'est pas perdu. Laisse place et chute. Tu vois nos têtes sur des affiches, mais c'est pas child focus. Vision d'adulte avec des rêves d'enfant. Visons la lune, regardons le ciel ensemble.
J'ai la nostalgie de l'enfance où je m'amusais avec rien. Je me fais que du mal maintenant qui fait que je cherche après le bien. J'aimerais retrouver mes cheveux manquants. Réécouter mes vœux d'antan. Me conseiller sûrement ça dont j'avais besoin. Avant je pouvais me péter au calme de Zaranov. Maintenant si je fais ça, c'est direct à la mort. 18 ans cheese, ouais ça se pavane la dame. Nous prends pas pour exemple, petit padawan. Si tu trouves une île, on grandit plus, file le truc. Direct je me casse là-bas. Car vieillir je ne veux plus paraître plus vieux, ouais c'est ton truc. Mais on en reparlera. Vas-y roule, roule, je vais cramer ce gros pêche. Je veux la poudre, poudre de la fée clochette. Pour que je bouge, couche et que je déco sec. Parce que fou, je doute, gros ça c'est le problème.
Alors notre entretien est presque à son terme. Je voudrais pour terminer donc vous demander, Isabelle Grenu, quel document avez-vous utilisé pour cette étude? Comment vous vous placez dans l'historiographie? Et puis, je vous pose les trois questions en même temps. Quelle nouvelle piste de recherche?
Alors, les documents que j'ai utilisés, j'en ai utilisé un certain nombre, principalement, ma source principale, disons, hein, puisqu'on parle de source en histoire, ce sont les dossiers individuels constitués par l'assistance publique, par le service des enfants assistés avant que l'assistance publique s'appelle réellement comme ça, à partir du début du XXe siècle. Donc ce sont des dossiers qui sont constitués dès l'admission de l'enfant et qui comprennent tous les documents importants de sa vie. Hein, c'est un peu, je crois que c'est Yvan Jablonka qui parlait de frères de papier. Quoi. C'est-à-dire que ces documents, ils sont constitués de manière administrative, mais ce ne sont pas tous des documents administratifs. Donc il y a une part de documents administratifs, des procès-verbaux d'admission, des enquêtes sur la mère, etc. Mais il y a aussi tout ce qui concerne les activités, les événements contingents comme une fugue, un engagement militaire, etc. Donc, et puis il y a tout ce qui est correspondance, et c'est évidemment une source très riche, entre l'assistance publique et une mère, entre le pupille et l'assistance publique, entre un employeur et l'assistance publique, avec les médecins. On a tout un corpus important de correspondance, parfois des objets, très peu, durant la Troisième République, mais surtout une correspondance très riche. Donc ce sont ces dossiers que j'ai analysés.
D'accord.
J'en ai analysé un tiers de la... voilà.
Bon, comment vous vous placez dans l'historiographie?
Alors, l'historiographie, oui, j'ai parlé tout à l'heure, j'ai évoqué les historiens démographes qui ont commencé à défricher ce sujet dans les années 70. Et... peu à peu, ils se sont beaucoup intéressés justement à la mortalité des enfants et à leur modalité d'accueil dans les hospices. Ensuite, on a des chercheurs qui se sont intéressés un peu plus au destin des enfants et qui ont exploité, comme je l'ai fait, les dossiers individuels. Donc, je pense à Yvan Jablonka, qui a fait sa thèse sur les enfants assistés du département de la Seine, sur les pupilles du département de la Seine. Je pense aussi à Antoine Rivière, qui a travaillé sur les mères abandonneuses et leurs enfants sous la Troisième République à Paris. Il n'y a pas beaucoup d'études, en revanche, vraiment sur le milieu rural sous la Troisième République. Je pense que je m'inscris dans ce créneau.
D'accord.
Voilà. Donc, un département rural sous la Troisième République, c'est la première fois que c'est étudié en France.
D'accord.
Il y a eu des départements ruraux étudiés, comme Isabelle Le Boulanger avec les Côtes du Nord, mais c'était le 19e siècle. En fait, les dernières études débordent plus sur le XXe siècle maintenant. Donc les prolongements, mais ça serait les années 50, les années 60, qui sont pour ce que j'en sais en France, en tout cas, de ce point de vue-là, peu étudiés. Donc les développements, voilà, ils peuvent s'inscrire l'après assistance publique, la DAS par exemple. Il y a beaucoup de choses à faire.
D'accord, donc un prolongement chronologique.
Un prolongement chronologique, mais bon, aussi peut-être sur le secret, par
Bien
exemple,
sûr,
sur
ouais.
l'accouchement secret et ses divers prolongements.
Il faudra nous en parler alors.
Merci.
Isabelle Grenu, merci.
Merci beaucoup.
Je rappelais que vous pouvez nous écouter en direct sur Radio Zinzinex 88.1 le jeudi à 12h30, le samedi à 15h, les premières et troisièmes semaines de chaque mois. Et les deuxièmes et quatrièmes semaines, sur l'ensemble du réseau en allant voir sur radiozinzine.org, rubrique programme. Vous avez également la possibilité de laisser des messages sur notre messagerie. La prochaine émission portera sur les Britanniques et le Brexit en Méditerranée. On change totalement de sujet. Au revoir.
Merci beaucoup. Au revoir.
On choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille. On choisit pas non plus les trottoirs de Manille, de Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher. Être né quelque part. Être né quelque part pour celui qui est né, c'est toujours un hasard.